Interview.
2 jours.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWA sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui, j'accueille Christophe Carré, médiateur professionnel installé à Valence. Et c'est la deuxième fois que j'accueille en ses locaux un médiateur. Il n'y a pas plus tard que 3 semaines, Claire Bonnel, une médiatrice familiale travaillant pour l'AEMF, était venue parler de son travail. Et là, j'ai devant moi un médiateur. Il n'est pas que médiateur familial, il est aussi professionnel. Mais je vais le laisser en parler. Monsieur Carré, bonjour.
Bonjour.
Alors donc, on va commencer par le début, tout simplement. Qu'est-ce que le médiateur et pourquoi ce n'est pas tout à fait d'ailleurs le même métier que Claire Bonnel dont vous avez entendu parler ?
Oui, alors moi, je suis médiateur professionnel. En fait, le médiateur professionnel est formé de façon transdisciplinaire et il est capable d'intervenir sur tous les types de conflits, que ce soit les conflits d'entreprise, les conflits de voisinage, les conflits patrimoniaux, familiaux, etc. Voilà, donc c'est un petit peu la différence avec le médiateur familial qui, lui, ne fait que du familial ou du conjugal.
Mais est-ce que vous avez fait la même formation que Claire Bonnel, par exemple ?
Alors, en principe, les médiateurs familiaux sont titulaires d'un diplôme qui s'appelle le DEMF, diplôme d'état de médiateur familial. Moi, j'ai fait une formation à l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Voilà, donc a priori, le médiateur professionnel intervient plutôt pour les entreprises, mais il est ouvert à tous les types de conflits, conflits de voisinage et autres.
Donc vous, ça vous arrive de vous occuper aussi de médiation familiale, mais pas que ça ?
Oui, tout à fait. Médiation familiale, conjugale, voilà. Mais je ne fais pas que ça, effectivement.
Alors, une deuxième différence avec Claire Bonnel, c'est qu'elle travaillait pour l'AEMF, une structure qui est un peu sponsorée par la CAF et d'autres institutions, tandis que vous, vous êtes un privé, une profession libérale, et vous avez créé donc le carré des médiateurs.
Oui, oui, c'est un jeu de mots.
Avec votre nom.
Avec mon patronyme, voilà. Alors je crois que ce qu'il faut dire, c'est que la médiation, c'est un terme à la mode et dans l'esprit des gens, c'est pas forcément toujours très clair. Il y a des médiateurs de proximité, des médiateurs culturels, des médiateurs familiaux, pédagogiques, des médiateurs pénaux, judiciaires. Voilà, on a l'impression que les médiateurs sont parmi nous.
Il y a une vraie floraison de médiateurs un peu partout.
Oui, 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 mais peut-être encore pas suffisamment et peut-être que la profession est encore un peu méconnue. Je crois qu'il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs courants dans la médiation. Un premier courant qui est un courant spirituel, religieux, donc qui est fondé sur la bonne entente, l'accord entre les gens. Un courant psychologique, hein, donc avec des recherches au niveau de l'histoire des gens, etc. Il y a enfin un courant juridique qui est organisé par les avocats, par tous les gens, les juristes, etc. Et puis il y a le courant de la médiation professionnelle, qui est lui un courant rationnel, philosophique. Hein, voilà, l'idée c'est de considérer que par rapport à leurs conflits, les gens sont ignorants, qui se laissent emporter par des choses très irrationnelles et qu'il faut réussir à les ramener à la raison. Voilà, donc ça se passe avec des entretiens qui sont très structurés et essentiellement sur des principes rhétoriques, hein, des techniques d'entretien, voilà, qui vont permettre d'amener les gens à comprendre qu'ils ne peuvent pas imposer des choses à la partie adverse, qu'ils ne peuvent pas prêter d'intention parce que l'autre fait la même chose, qu'il faut se méfier de toutes les interprétations qu'on peut avoir des attitudes des autres. Voilà, donc on sort, si vous voulez, de l'adversité. Hein. L'adversité, c'est ce qui est classique dans la procédure judiciaire. On prend un avocat, on est l'un contre l'autre, et puis on guerroie, on sort les massues comme au temps préhistorique. Le principe de la médiation professionnelle, c'est de sortir de cette adversité et d'aller vers l'altérité, c'est-à-dire la reconnaissance de l'autre, de sa légitimité de point de vue. Ça veut dire qu'il a le droit de penser ce qu'il pense, et moi j'ai le droit de penser différemment. Reconnaître qu'il a le droit d'être maladroit dans ce qu'il fait, il ne le fait pas volontairement pour m'agacer, pour faire monter la pression. Voilà, bon, toutes ces choses, c'est important de les avoir en tête quand on parle de médiation.
Vous avez peut-être des trucs pour arriver à faire en sorte que les gens reviennent à la raison. Vous m'avez dit que c'était très structuré, mais vous avez des trucs alors ?
Oui. On a, si vous voulez, un conflit, on peut considérer qu'il y a trois composantes dans un conflit. Un élément juridique, un élément technique et un élément émotionnel. Alors, je vais vous expliquer de quoi il s'agit, parce que ça peut paraître comme ça un petit peu compliqué. L'élément juridique, c'est le non-respect d'un code. Alors, ça peut être un code implicite entre les gens, ou d'une loi, ou d'une règle, de quelque chose qui se fait ou qui ne se fait pas.
D'un usage.
Voilà, un usage. L'élément technique, ça va être le préjudice matériel, ce que ça me provoque comme contrainte ou comme obligation. Et enfin, l'élément émotionnel, c'est la partie ressentie, c'est la partie relationnelle. Je prends un exemple très simple. Vous avez acheté une place de parking devant chez vous et votre voisin systématiquement pique votre place de parking. Donc l'élément juridique, la règle qu'il ne respecte pas, c'est que cette place de parking vous appartient et que réglementairement, vous seriez en droit de pouvoir vous garer chez vous. Voilà, ça c'est la partie juridique. La partie technique, c'est que ça va vous poser, vous créer un préjudice. C'est-à-dire que pour arriver à vous garer, vous allez devoir faire 10 fois le tour du pâté de maison, chercher une place ailleurs, voire éventuellement prendre la place d'un autre voisin. Ça, c'est la partie matérielle, la partie préjudice. Et puis enfin, vous avez l'élément émotionnel. Là, c'est tout ce qu'il peut y avoir, par exemple, dans cet exemple de colère, enfin de choses. Vous êtes vraiment très agacé par l'attitude de ce voisin. Vous avez envie de l'insulter, de vous battre avec lui. Enfin, peu importe. Voilà. Alors, la procédure classique de gestion du conflit, ça va être, et ce que fait la justice, ça va être de commencer par observer la partie du code, de la loi, de la règle qui n'est pas respectée. Voilà. Et ensuite, on va dire, eh bien, monsieur a subi un préjudice. Le préjudice est estimé à tel dédommagement, tant de centaines ou de milliers d'euros. Voilà. Et très souvent, la justice va s'arrêter là. Et donc, dans ce traitement juridique, technique, émotionnel, on est vraiment dans cet ordre-là. La justice procède dans cet ordre-là. Les arbitres procèdent de la même façon. Alors qu'en médiation professionnelle, on va complètement inverser ce processus. C'est-à-dire qu'on considère que nous ne sommes pas des juristes, nous ne sommes pas non plus des experts. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est la qualité de la relation entre les gens pour les amener à régler ce conflit eux-mêmes, c'est-à-dire à trouver eux-mêmes la solution aux contentieux, aux litiges, aux différends. Voilà. Donc on inverse complètement le processus, on règle la partie émotionnelle, la partie relationnelle, on les prépare en entretien individuel pour qu'ensuite ils soient capables d'échanger ensemble, avec toujours le médiateur, effectivement, qui fait le relais entre les parties. On ne laisse pas les gens se taper dessus, voilà, donc qui régule un peu les échanges. Donc c'est vraiment des stratégies de communication qui sont très spécifiques. Et lorsqu'il y aura préjudice, ou lorsqu'il sera nécessaire de faire appel à un code, une loi, la partie juridique qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, c'est plus notre partie. Hein, donc finalement, nous, on travaille uniquement sur la partie relationnelle.
Oui, mais alors, j'en reviens à ce que ma précédente question, quand je vous ai parlé de trucs, justement, vous parlez de stratégies spécifiques. Ce serait intéressant que vous nous disiez quelles sont ces stratégies spécifiques pour désamorcer le fait que les gens se tapent dessus, quoi, justement. Quels sont vos trucs Vous leur dites, mais regarde-toi, t'es en train de t'énerver, ou regarde l'autre, il a le droit d'exister. Enfin, vous avez des trucs, alors?
Oui. Effectivement, on essaie de décoder les émotions des gens. Comme je vous ai dit, on les prépare en entretien individuel à pouvoir se rencontrer, à pouvoir échanger ensemble. Et puis après, derrière, on met en évidence tout ce qui est de l'ordre du prêt d'intention. Qu'est-ce que j'imagine que l'autre peut penser de moi? Qu'est-ce que... Voilà, on essaie aussi de trouver tout ce qui est du ressort des interprétations. Hein, parce que très souvent, on imagine des choses. Vous savez, l'homme est capable de s'imaginer des choses complètement irrationnelles. Et puis enfin, on essaie de mettre en évidence toute la partie contrainte. Je veux contraindre l'autre à rester, par exemple, dans un couple. On peut s'imaginer ce genre de choses. Moi, je veux pas me séparer. Oui, mais est-ce que vous pouvez contraindre la personne qui est en face de vous à rester avec vous? C'est quand même une grande problématique. Donc, on fait apparaître tout ça. On fait ce qu'on appelle la purge des émotions. C'est-à-dire qu'en fait, il faut... Alors, très souvent, il faut préparer les paquets de mouchoirs parce que très souvent, c'est douloureux dans les entreprises quand il est question de harcèlement moral ou de stress ou de choses comme ça. C'est très souvent difficile pour les gens d'arriver à ressortir cette partie émotionnelle. Mais une fois qu'ils ont, si vous voulez, vidangé, si je peux dire, cette partie-là, on est prêt pour le dialogue. On est prêt pour comprendre qu'on ne peut pas imposer à l'autre sa propre vision des choses, qu'on ne peut pas le contraindre. Et lorsqu'on a fait ce travail-là, eh bien, on est prêt pour la réunion de médiation, c'est-à-dire on est prêt pour envisager ensemble des solutions. Alors, il faut savoir que le médiateur, sur la question des solutions, il est complètement neutre. C'est-à-dire, c'est pas un arbitre, c'est pas un conciliateur. La médiation peut très bien aboutir à une reprise de la relation. Elle peut aussi aboutir à l'abandon, c'est-à-dire à la rupture. Ou bien, elle peut aboutir à l'aménagement de la relation. C'est-à-dire que, eh bien, par exemple, dans un couple qui ne se séparerait pas, par exemple, poser les bases d'un nouveau type de relation.
Et avec votre expérience, donc, vous pouvez dire que les médiations que vous opérez fonctionnent.
Alors, à la Chambre professionnelle de la médiation, donc c'est le syndicat auquel j'appartiens, puisque l'école professionnelle est rattachée à une chambre professionnelle, nous avons conduit plus de 10 000 médiations en 10 ans avec un taux de réussite de 100% pratiquement.
100% des gens qui ont fait une médiation en ressortent avec au moins un contentieux qui est dédramatisé et qui ne passe pas dans des tribunaux, je veux dire.
Alors, pas forcément. Le médiateur peut intervenir pour éviter la judiciarisation du conflit, mais il peut intervenir aussi en cours de conflit, à la demande du juge ou à la demande des parties, et il peut aussi intervenir après qu'une décision de justice a été prise. Donc si vous voulez, il n'y a pas de... L'idéal, évidemment, c'est d'éviter d'aller engorger la justice avec des dossiers complètement aberrants. Je pense à cette histoire d'un monsieur qui était en conflit avec sa compagne parce qu'elle avait décidé de se séparer, qui avait effectivement des photos de sa compagne assez dénudées et qui les a publiées sur Facebook. Bon, par exemple, c'est le genre de dossier qui arrive en justice, alors qu'on pourrait peut-être bien, par la médiation, essayer de régler ce type de situation autrement que par la justice. Je pense aussi à l'histoire de cette personne qui avait des frais de justice immenses, puisqu'il était à près de 5000 euros d'avocat, de frais, de procédure, etc. Simplement parce que son voisin avait construit une clôture à 10 cm à l'intérieur de sa propriété. Bon, la propriété faisait à peu près 20 mètres de long. Si vous rapportez 20 mètres par 10 cm, ça doit faire, si je calcule bien, 2 mètres carrés. Donc vous voyez, c'est beaucoup de frais avec peut-être des solutions qui auraient pu être trouvées et qui soient moins irrationnelles.
D'un autre côté, il n'avait pas entièrement tort.
Effectivement, la partie juridique, c'est cette personne a empiété 10 cm sur mon terrain. Elle n'avait pas le droit de faire ça. Là, nous sommes d'accord. Après, effectivement, il y a un préjudice matériel, c'est les 2 mètres carrés de terrain. Mais après, le problème, c'est que ça avait enflé et que dans un conflit, les gens deviennent très facilement très irrationnels. C'est-à-dire que le travail du médiateur, ça va être d'essayer de les ramener à la raison.
Et en colère peut-être aussi, non ?
En colère, on est dans l'adversité. On est dans le registre de l'adversité et dans l'adversité, on monte au créneau, on essaie, on s'oppose, c'est le jeu de la carotte et du bâton. Il y a toujours un gagnant, un perdant, où tout le monde s'estime lésé. Parfois, dans les décisions judiciaires, tout le monde s'estime lésé.
Alors, ça veut dire, est-ce que je dois comprendre que dans l'adversité, quand on monte au créneau, ça pourrait être une mauvaise stratégie ? Il vaudrait mieux laisser faire et attendre, je ne sais pas si vous connaissez ce proverbe chinois, si tu veux la mort de ton ennemi, assieds-toi devant le fleuve et attends de voir son cadavre passer. C'est-à-dire qu'on laisserait faire selon vous, non ?
Non, 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 non. Justement, le principe de la médiation, ce n'est pas, de s'asseoir au bord du fleuve et d'attendre de voir passer le cadavre de l'ennemi. C'est justement envisager d'autres solutions que les solutions classiques qui sont celles de l'adversité. C'est essayer de trouver ensemble une réponse au conflit que nous avons. Et donc, si vous voulez, ça appelle la responsabilité des gens. Je trouve qu'il est quand même beaucoup plus intéressant, quand on est en conflit, d'essayer de trouver soi-même une solution à ce conflit plutôt que de laisser à un arbitre ou à un juge le soin de trancher. Parce que ça veut dire sinon que ce conflit m'appartient pas. Ça veut dire je laisse à la justice, je laisse à une entité extérieure le soin de décider ce qui va se passer pour moi. Dans la médiation, vous ne laissez pas à l'autre ou aux autres le soin de décider pour vous. Vous êtes responsable de la solution que vous allez trouver ensemble.
Et je suppose que dans votre formation, il y a une partie de psychologie. Justement, pour comprendre les mécanismes de fonctionnement des gens et des jeux de rôle aussi, parce qu'il n'y a jamais une situation avec un méchant d'un côté et quelqu'un qui a 100% tort de l'autre. Enfin...
Oui, bien sûr. C'est...
Donc vous avez fait de la formation, de la psychologie dans votre formation?
Eh bien, pas du tout, en fait. Pas du tout.
Dans le cursus des médiateurs, il n'y a pas
voilà,
de psychologie.
Alors, il y a effectivement de la psychologie dans le cursus d'un certain nombre d'écoles. Il n'y a pas de psychologie à l'école professionnelle de la médiation et de la négociation. Il y a plutôt de la philosophie. On va dire, hein, vous vous souvenez, la fameuse allégorie de la caverne de Platon, vous savez, ces hommes qui sont enchaînés, qui ne voient de la réalité que des ombres, qui n'entendent de l'extérieur que des bruissements, des rumeurs, et qui construisent finalement une réalité à partir de ce qu'ils peuvent percevoir de l'extérieur, qui en fait n'est pas une réalité. Donc on est plutôt, nous, sur des concepts de réalité, de rationalité. Voilà, on essaie en fait de faire comprendre aux gens que quelque part dans leur conflit, ils sont ignorants et que leur réaction instinctive, ça va être la réaction de l'adversité. Or, parce que évidemment, il est plus facile de guerroyer, il est plus facile de monter au créneau. Or, il y a des solutions plus intelligentes qui sont la réflexion, qui sont effectivement la posture d'altérité, qui sont la reconnaissance de la légitimité de l'autre à penser ce qu'il pense. Voilà, à être maladroit, à avoir de bonnes intentions, mais qui sont centrées sur lui. Chacun pense d'abord à ses intérêts personnels. Et puis, voilà, donc il s'agit d'un doux mélange de toutes ces valeurs pour amener les gens à concevoir la réalité et les faits tels qu'ils se produisent réellement, et non plus à partir dans l'irrationnel.
Alors, je suppose que puisque vous êtes une profession libérale, vos tarifs sont peut-être plus important que ceux de la médiation familiale. Et comment ça fonctionne? On vous paye? C'est cher, la médiation professionnelle?
Alors, je pense que la question, du coup, elle est effectivement importante. Alors, évidemment, le médiateur professionnel ne bénéficie pas des conventionnements de la CAF ni de la MSA. Ça signifie que ses honoraires sont évidemment un peu plus cher que ceux qu'on va pouvoir trouver à la CAF ou à la MSA. Ceci étant dit, je pense que la question du prix n'est pas forcément primordiale, puisque au niveau de la médiation, les gains relationnels vont être beaucoup plus importants. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement, dans le cas d'un conflit conjugal, par exemple, prendre chacun un avocat, surtout si vous êtes en conflit important. Ça va vous coûter un certain prix, et on peut dire que la médiation professionnelle coûte beaucoup moins cher. Il faut voir les gains relationnels que vous allez pouvoir tirer de la médiation professionnelle. Je crois, alors moi j'ai des forfaits pour les couples qui sont à 850 €. Donc ça comporte plusieurs entretiens individuels où les gens vont pouvoir me parler de leurs problématiques, et puis où je vais moi les préparer à la médiation, à la réunion de médiation qui va avoir lieu ensuite.
La réunion, il y en a qu'une?
Là où les réunions de médiation, parfois deux réunions sont nécessaires. Souvent 6 heures d'entretien suffisent. C'est très variable, évidemment, en fonction des personnes. Hein. Chaque médiation est singulière. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Même si le conflit en lui-même, que ça soit dans une entreprise, dans un couple ou ailleurs, c'est toujours la même mécanique, si vous voulez. On va toujours procéder au même démontage de la mécanique conflictuelle. Donc ça revient toujours un peu sur les mêmes processus.
Au début de cet entretien, vous m'avez dit que c'est un métier qui était encore peu connu. Mais c'est un métier dont on parle quand même relativement de plus en plus. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un métier qui est en pleine croissance ?
Alors, c'est un métier dont on parle effectivement de plus en plus, sauf que derrière le mot médiation, qui sonne assez moderne, il y a effectivement différentes représentations. Quand on parle d'un médiateur de quartier ou un médiateur social, par exemple, c'est pas Tout à fait. Bon, il y a toujours, si vous voulez, l'idée du tiers qui va intervenir entre deux personnes en conflit, et pas forcément d'ailleurs en conflit, puisque la médiation professionnelle, c'est aussi parfois pour aménager, pour restaurer ou pour ramener une qualité de la relation. Donc, en fait, si vous voulez, je pense que la médiation a de beaux jours devant elle. Elle n'est pas encore obligatoire avant toute procédure judiciaire en France. À la chambre professionnelle, nous le regrettons sincèrement. Ça existe dans certains pays comme la Belgique, le Canada, et c'est en train de se mettre en place en Italie. Je crois que ça existe aussi en Espagne. Enfin bon, ces informations sont à vérifier plus précisément. L'idée, si vous voulez, ça serait qu'avant toute procédure judiciaire, on puisse se rencontrer, les parties en conflit puissent se rencontrer pour voir si une médiation est possible ou si le recours judiciaire est nécessaire. Alors évidemment, si on est sur du pénal, sur des problèmes de crimes, de meurtres, de choses comme ça, évidemment que la justice doit faire son travail, etc. Mais le droit à la justice pour tous, à certains moments, ça devient débordant, c'est-à-dire que les gens vont saisir la justice pour des problématiques qui sont vraiment minimes et qui pourraient très bien se régler en médiation. Donc si vous voulez, moi je ne suis pas dans le registre de la concurrence. Alors il est vrai que c'est pas facile de s'installer, c'est pas facile de nouer des relations avec les gens qui font de la médiation dans la région. Enfin en tout cas, moi j'éprouve certaines difficultés là-dessus. Mais je pense sincèrement que plus nous serons nombreux à faire de la médiation, plus ça signifiera que c'est rentré dans la culture des gens. Plus ça signifiera qu'on sort de cette pratique de l'adversité dont nous parlions tout à l'heure pour aller davantage vers la reconnaissance de l'altérité qui, au fond, est assez naturelle. C'est-à-dire que moi, je pense que les gens sont faits pour coopérer, les gens ont l'intelligence de trouver ensemble des solutions à leurs problèmes. Je pense que l'humanité s'est aussi construite autour de ça. Alors, à quoi attribuer ce succès de l'adversité, y compris dans la justice? Franchement, je l'ignore. Il est vrai que ça paraît plus simple d'entrer. C'est un peu, vous savez, le taureau, les taureaux dans l'arène, en fait, ou le taureau devant qui on agite un chiffon rouge. Devant le conflit, on a tendance à foncer tête baissée, à pas prendre de recul, à pas réfléchir aux choses. Et donc, on saisit des bataillons d'avocats et on rentre dans un conflit qui, en fait, va aboutir à de la surenchère parce que finalement, on va faire toujours plus que ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire guerroyer de plus en plus, lutter de plus en plus, ou bien on va faire moins de ce qu'on fait déjà peu, c'est-à-dire on va pas explorer les solutions qui permettraient de sortir du conflit, ou bien on va être dans la litanie, c'est-à-dire qu'on va répéter sans arrêt la même chose et on va tourner en rond autour de tout ça.
Justement, y a-t-il des vocations qui croissent dans ce métier? Y a-t-il de plus en plus de professionnels?
Alors, il y a plus en plus de médiateurs professionnels qui sont formés, en tout cas. Donc ça, je pense que c'est bon signe. Il y a un certain nombre de médiateurs professionnels qui sont internalisés dans les entreprises, c'est-à-dire qui ont une place de médiateur en respectant les principes de la médiation qui sont l'indépendance, l'impartialité et la neutralité, qui sont dans les entreprises et qui commencent à gérer des conflits internes, des conflits commerciaux, des litiges avec les fournisseurs, des choses comme ça. Sur la médiation à titre libéral, je pense que ça va peut-être être un petit peu plus lent parce que il faut trouver du travail, parce qu'il faut arriver à vendre ses prestations. Voilà. Moi, j'ai bon espoir. Franchement, je pense que dans les années qui viennent, la médiation va se développer. Quand vous savez que seulement 5 à 7% par exemple des conflits familiaux ou conjugaux passent en médiation, je me dis qu'il y a encore de beaux jours pour la médiation parce que effectivement c'est l'exemple type, le conjugal, où on peut trouver des solutions, même si c'est pas facile, même si la partie émotionnelle pour le coup elle est très très forte dans un conflit conjugal, parce que quand vous avez vécu 20 ou 30 ou 10 ans avec une personne, évidemment que le conflit est très fort, mais la médiation professionnelle, c'est effectivement ce qui va permettre de sortir de ces conflits, de ces escalades, en fait, où on en rajoute toujours plus. C'est le phénomène boule de neige, en fait, hein. Plus ça va, plus le conflit grossit, plus les avocats luttent ensemble, voilà. Plus, et puis au final, ça se règle devant un juge en 5 ou 10 minutes. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est terrible. Finalement, les gens sont avec leurs conflits, ils repartent avec leurs conflits. Le juge a décidé du temps de garde des enfants, du partage des petites cuillères ou des automobiles ou des biens. Et puis, au final, rien n'est réglé. La partie relationnelle n'est pas réglée. Et par exemple, lorsque vous êtes dans des situations où les enfants sont jeunes et en garde alternée, on observe les choses les plus terribles. Regardez, en ce moment, ce monsieur qui est perché.
Il est descendu, je crois.
Ouais, bon, aux dernières nouvelles, il est descendu. Mais enfin, c'est quand même, vous voyez, quelque chose qui est de l'ordre de la relation, qui n'a pas été réglé avec la maman de cet enfant, qui fait que, effectivement, pour cette personne, on imagine combien ça peut être douloureux de ne pas avoir son enfant pendant 2 ans. Donc vous voyez l'avantage de la médiation dans ce type de situation.
Alors combien il y en a de médiateurs dans la Drôme alors, en activité, de type profession libérale comme vous ?
Alors je suis le seul médiateur professionnel de la Drôme, titulaire du certificat d'aptitude à la profession de médiateur et adhérent à la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Donc voilà, voilà. Après vous avez des associations... Une association donc de médiation familiale et une association qui fait de la médiation pénale sur Valence. Voilà.
Vous arrivez à en vivre correctement de ce métier ?
Non, pas encore. Je suis obligé, à côté de la médiation, de faire de la formation, de faire du coaching, de l'accompagnement de personnes à titre individuel, y compris d'ailleurs de l'accompagnement de gens qui sont en conflit et un conflit dans lequel l'autre partie ne veut pas arriver à la médiation. Voilà, je travaille également dans les entreprises où je règle, où je fais des diagnostics par exemple sur tout ce qui relève de la qualité relationnelle. Voilà.
Donc quelles seraient les bonnes raisons de faire une médiation alors ?
D'abord sa confidentialité qui est absolue et sans condition. En tout cas dans la médiation professionnelle. Voilà. Ensuite, faire le choix de la médiation, bien, c'est affirmer son refus de l'adversité, c'est accepter de négocier avec la partie avec laquelle on est en conflit. La troisième bonne raison, ça serait sa rapidité. La plupart des conflits se règlent dans un délai de 1 semaine à 1 à 2 mois, on va dire. Son coût financier, il est généralement inférieur effectivement à celui d'une procédure judiciaire, on en parlait. Les gains relationnels qui sont inestimables au regard des coûts financiers.
Et du stress.
Et en plus, du stress. Et enfin, la responsabilité. Les parties s'engagent et choisissent elles-mêmes en toute intelligence l'issue qu'elles souhaitent donner à leurs différends, sans laisser à un juge ou à un arbitre le soin de trancher pour elles. Et très souvent, c'est possible.
Et pour les entreprises, elles y trouvent, je suppose, leur compte, elles internalisent des médiateurs ou qu'elles font appel à des médiateurs en tant que prestataires ?
Oui, bien sûr. Effectivement, la confidentialité sans condition pour les entreprises, c'est très intéressant. Lorsque une procédure est judiciarisée, forcément, on sait que l'entreprise a eu un problème, une difficulté, que ce soit au prud'homme ou ailleurs. Ensuite, pour l'image de marque des entreprises, c'est très important. Aller en médiation, faire appel à la médiation, c'est finalement faire preuve d'un esprit d'ouverture, c'est montrer qu'on ne souhaite pas, encore une fois, s'engager dans l'adversité, mais qu'on essaie de trouver des solutions. Mais je pense que les entreprises sont plus à même, enfin, il y a quand même une 30%, je crois, des entreprises qui font maintenant appel à la médiation, que ce soit les entreprises ou les services juridiques directement. Donc ça c'est plutôt bon signe. Et puis pour les entreprises, ça évite de traîner pendant des années des conflits au prud'homme ou au tribunal. Enfin bon, ça peut durer jusqu'à 10 ans, un conflit dans une entreprise. Donc c'est quand même très intéressant d'arriver à passer rapidement à autre chose. sans compter les gains en termes de relations et sans compter aussi les gains en termes de productivité, puisque les managers passent une partie importante de leur temps à régler des conflits et des litiges et des dysfonctionnements dans les services. Donc quand c'est réglé par un médiateur, le manager peut se consacrer à son travail pleinement.
Christophe Carré, vous avez peut-être donné envie à des auditeurs de RDVOIS de vous contacter. Comment ferait-il alors ? Comment faire pour vous joindre ?
Eh bien écoutez, je crois que le plus simple, c'est de me joindre par téléphone au 06 31 89 73 85 ou bien encore au 04 75 83 93 92. Sinon, vous pouvez retrouver mes activités sur Internet. Vous tapez dans un site de recherche le carré des médiateurs et vous arriverez directement chez moi. Voilà. Alors, je pense qu'il est important aussi de préciser que je suis auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur les conflits, puisque je travaille également dans le milieu de l'édition. Donc, sur mon site, vous retrouverez aussi tous les ouvrages qui ont attrait à ce que j'ai pu dire et écrire sur les conflits.
Donc, c'est des bouquins qui parlent de médiation et qui pourraient être instructifs pour les gens qui voudraient sortir de cette habituelle façon de procéder qui est de courir à droite sur l'adversaire.
Voilà, oui, tout à fait. J'ai un titre qui s'appelle 50 exercices pour sortir des conflits sans violence. Donc là, ça fait appel effectivement à la communication non violente. J'en ai un autre qui s'appelle Sortir des conflits. Bref, j'ai publié plusieurs choses sur la question qui peuvent effectivement intéresser les auditeurs.
Eh bien, Christophe Carré, merci beaucoup de toutes ces informations et de ce ne sont même pas des spéculations philosophiques de haute volée, c'est très pratique. Vous apportez des moyens pour éviter aux gens de souffrir aussi.
Oui, oui, tout à fait. Merci à vous pour votre accueil.
Et puis à la prochaine fois. Au revoir.
À la prochaine fois. Au revoir.
Interview. 1 terre.
Hey, the bird.
L'interview du jour.